tant mieux. Et qu'elle le mange jusqu'au dernier liard, j'en serai contente. » Arnoux, en effet, se laissait exploiter par la bordelaise avec l'indulgence des amours séniles. Sa fabrique ne marchait plus. L'ensemble de ses affaires était pitoyable, si bien que pour les remettre à flot, il pensait d'abord à établir un café chantant, où l'on n'aurait chanté rien que des œuvres patriotiques. Le ministre lui accordant une subvention, cet établissement serait devenu tout à la fois un foyer de propagande et une source de bénéfices. La direction du pouvoir ayant changé, c'était une chose impossible. Maintenant, il rêvait une grande chapellerie militaire. Les fonds lui manquaient pour commencer. Il n'était pas plus heureux dans son intérieur domestique. Madame Arnoux se montrait moins douce pour lui, parfois même un peu rude. Marthe se rangeait toujours du côté de son père. Cela augmentait le désaccord et la maison devenait intolérable. Souvent, il en partait dès le matin, passait sa journée à faire de longues courses pour s'étourdir, puis dînait dans un cabaret de campagne en s'abandonnant à ses réflexions. L'absence prolongée de Frédéric troublait ses habitudes. Donc, il parut, une après-midi, le supplia de venir le voir comme autrefois et en obtint la promesse. Frédéric n'osait retourner chez Madame Arnoux. Il lui semblait l'avoir trahi, mais cette conduite était bien lâche. Les excuses manquaient, il faudrait en finir par là, et un soir, il se mit en marche. Comme la pluie tombait, il venait d'entrer dans le passage au froid quand, sous la lumière des devantures, un gros petit homme en casquette l'aborda. Frédéric n'eut pas de peine à reconnaître Compin, cet orateur dont la motion avait causé tant de rire au club. Il s'appuyait sur le bras d'un individu affublé d'un bonnet rouge de zouave, la lèvre supérieure très longue, le teint jaune comme une orange, la mâchoire couverte d'une barbiche, et qui le contemplait avec de gros yeux lubrifiés d'admiration. Compin, sans doute, en était fier, car il dit « Je vous présente ce gaillard-là. C'est un bottier de mes amis, un patriote. Prenons-nous quelque chose ?» Frédéric l'ayant remercié, il tena immédiatement contre la proposition râteau, une manœuvre des aristocrates. Pour en finir, il fallait recommencer 93. Puis, il s'informa de Rejavard et de quelques autres aussi fameux, tels que Masselin, Sanson, Lecornu, Maréchal et un certain Deslauriers, compromis dans l'affaire des carabines interceptées dernièrement à Troyes. Tout cela était nouveau pour Frédéric. Compin n'en savait pas davantage. Il le quitta en disant « À bientôt, n'est-ce pas, car vous en êtes. » « De quoi ?»« De la tête de veau. » « Quelle tête de veau ?»« Ah, farceur !» reprit Compin en lui donnant une tape sur le ventre. Et les deux terroristes s'enfoncèrent dans un café. 10 minutes après, Frédéric ne songeait plus à Deslauriers. Il était sur le trottoir de la rue Paradis, devant une maison, et il regardait au second étage, derrière des rideaux, la lueur d'une lampe. Enfin, il monta l'escalier. « Arnoux y est-il » La femme de chambre répondit « Non, mais entrez tout de même. » Et ouvrant brusquement une porte, « Madame, c'est Monsieur Moreau. » Elle se leva plus pâle que sa collerette. Elle tremblait. « Que me vaut l'honneur d'une visite aussi imprévue ?»« Rien. » « Le plaisir de revoir d'anciens amis. » Et tout en s'asseyant, « Comment va ce bon Arnoux ?»« Parfaitement, il est sorti. »« Ah, je comprends. Toujours ses vieilles habitudes du soir. Un peu de distraction. »« Pourquoi pas ? Après une journée de calcul, la tête a besoin de se reposer. » Elle vanta même son mari comme travailleur. Cet éloge irritait Frédéric. Et désignant sur ses genoux un morceau de drap noir avec des soutaches blondes, « Qu'est-ce que vous faites là ?» Une veste que j'arrange pour ma fille. À propos, je ne l'aperçois pas. Où est-elle donc ? Dans une pension, reprit Madame Arnoux. Des larmes lui vinrent aux yeux. Elle les retenait, en poussant son aiguille rapidement. Il avait pris par contenance un numéro de l'illustration sur la table, près d'elle. Ces caricatures de Cham sont très drôles, n'est-ce pas ?
Oui.
Puis ils retombèrent dans leur silence. Une rafale ébranla tout à coup les carreaux.
« Quel temps !» dit Frédéric.
« En effet, c'est bien aimable d'être venu par cette horrible pluie.
Oh, moi je m'en moque. Je ne suis pas comme ceux qu'elle empêche, sans doute, d'aller à leur rendez-vous. »«
Quel rendez-vous » demanda-t-elle naïvement.
« Vous ne vous rappelez pas. »
Un frisson la saisit et elle baissa la tête. Il lui posa doucement la main sur le bras.
« Je vous assure que vous m'avez fait bien souffrir. »
Elle reprit avec une sorte de lamentation dans la voix.
« Mais j'avais peur pour mon enfant. » Elle lui conta la maladie du petit Eugène et toutes les angoisses de cette journée. « Merci, merci, je ne doute plus. Je vous aime, comme toujours. »« Et non, ce n'est pas vrai. »«
Pourquoi ?» Elle le regarda froidement.
« Vous oubliez l'autre, celle que vous promenez aux courses, la femme dont vous avez le portrait, votre maîtresse. »«
Eh bien oui, » s'écria Frédéric. « Je ne nie rien, je suis un misérable, écoutez-moi. »
S'il l'avait eue, c'était par désespoir, comme on se suicide. Du reste, il l'avait rendue fort malheureuse pour se venger sur elle de sa propre honte.
« Quel supplice, vous ne comprenez pas ?»
Madame Arnoux tourna son beau visage en lui tendant la main, et ils fermèrent les yeux, absorbés dans une ivresse qui était comme un bercement doux et infini. Puis, ils restèrent à se contempler face à face l'un près de l'autre.
« Est-ce que vous pouviez croire que je ne vous aimais plus ?»
Elle répondit, d'une voix basse pleine de caresses.
« Non. En dépit de tout, je sentais au fond de mon cœur que cela était impossible. » Et qu'un jour l'obstacle entre nous s'évanouirait.
Moi aussi, et j'avais des besoins de vous revoir, à en mourir.
Une fois, reprit-elle, dans le palais royal, j'ai passé à côté de vous.
Vraiment ? Et il lui dit le bonheur qu'il avait eu en la retrouvant chez les D'Ambreuse.
Mais comme je vous détestais le soir en sortant de là.
Pauvre garçon, ma vie est si triste.
Et la mienne ?
Et s'il n'y avait que les chagrins, les inquiétudes, les humiliations, tout ce que j'endure comme épouse et comme mère, puisqu'on doit mourir, je ne me plaindrai pas. Ce qu'il y a d'affreux, c'est ma solitude.
Sans personne.
Mais je suis là, moi.
Oh oui.
Un sanglot de tendresse l'avait soulevé. Ses bras s'écartèrent, et ils s'étreignirent debout dans un long baiser.
Un craquement se fit sur le parquet. Une femme était près d'eux, Rosanette.
Madame Arnoux l'avait reconnue. Ses yeux, ouverts démesurément, l'examinaient, tout plein de surprise et d'indignation.
Enfin, Rosanette lui dit « Je viens parler à Monsieur Arnoux, pour affaire. »
« Il n'y est pas, vous le voyez ?»«
Ah, c'est vrai, » reprit la maréchale. « Votre bonne avait raison, mille excuses. »
Et se tournant vers Frédéric, « Te voilà ici, toi ?»
Ce tutoiement, donné devant elle, fit rougir Madame Arnoux comme un soufflet en plein visage.
« Il n'y est pas, je vous le répète. »
Alors la maréchale, qui regardait ça et là, dit tranquillement
« Rentrons-nous, j'ai un fiacre en bas. »
Il faisait semblant de ne pas entendre.
« Allons, viens. »
« Ah oui,
c'est une occasion. Partez, partez, »
dit Madame Arnoux.
Ils sortirent. Elle se pencha sur la rampe pour les voir encore, et un rire aigu, déchirant, tomba sur eux